À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
Bonjour à tous. La Grande Muraille de Chine, le Tibet, la cité interdite, c'est toujours un peu comme ça qu'on imagine la Chine, un pays qui fascine encore aujourd'hui. De la route de la soie à Shenzhen, nous allons dresser le portrait ce lundi d'un empire du milieu qui se réveille après une longue période de léthargie due au Covid. Quelle est la volonté de Pékin ? Quelles entreprises sont encore prêtes à miser sur la Chine ? Quels sont les avantages, les désavantages, les forces en présence ? Nous sommes avec Sébastien Lebelzik, notre correspondant en Chine. Bonjour.
Oui, bonjour.
Nous sommes le lundi 6 mars et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour toutes celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'Écho.
Toute cette semaine, l'Écho consacre une partie de ses pages au décryptage de la situation alors que le pays a rouvert ses frontières. La Chine, ce sont des opportunités de business pourvu qu'on veuille prendre le risque. Je suis Guillaume Cordeau et vous écoutez le brief.
Le brief, cette info, dès 7h.
Sébastien Lebelzik, il est déjà tard chez vous. Je crois que nous avons 7 heures de différence. Ça fait déjà longtemps que les Chinois sont au travail. Et ils ont entamé leur lundi alors que le président Xi Jinping est sur le point d'obtenir un troisième mandat lors de la nouvelle session annuelle du Parlement chinois. Il doit changer de Premier ministre par la même occasion. Alors, première question, quels sont les défis du numéro 1 chinois ?
Écoutez, les défis sont très importants parce que c'est la première réunion des parlements chinois depuis la levée des mesures anti-Covid, hein, cette politique dite zéro Covid. Et donc, pour le président chinois, il faut en quelque sorte redonner confiance en l'avenir du pays, redonner confiance dans les perspectives économiques, puisque quand même cette politique zéro Covid a coûté très très cher, hein, à l'économie chinoise. Le chômage des jeunes, notamment, a explosé, puisqu'on est proche de 20% de chômeurs chez les moins de 24 ans, c'est donc très important. La croissance aussi est parmi les plus faibles depuis ces 40 dernières années. Donc c'est l'occasion, hein, ces réunions du Parlement, de dresser en fait une feuille de route de ce qui va être fait pendant les prochains mois. Et c'est d'autant plus important effectivement que c'est cette semaine que le président chinois Xi Jinping va entamer officiellement son troisième mandat. Il va donc au-delà de la traditionnelle limite de 2 mandats, donc de 10 années à la tête du pays. Et c'est certainement le plus long règne déjà d'un président depuis Mao Tse-tung.
Alors nous allons revenir sur certains de ces aspects, mais en fait, pour bien comprendre, Sébastien, les capacités de ce pays à se relever, prenons un exemple, hein, très personnel. Moi, ce qui m'a marqué la première fois que je suis allé à Pékin, c'est la rapidité à laquelle la ville évolue, les bâtiments se construisent. Est-ce l'une des choses qu'il faut retenir, c'est que le pays est agile et va vite se sortir de ce déficit d'image dû à la politique zéro Covid ?
Alors oui et non, c'est vrai que la construction des infrastructures, c'est l'un des leviers, hein, de l'économie chinoise, hein, depuis les années 90 en fait, et la grande ouverture du pays. La Chine s'est appuyée sur 2 éléments principalement, sa capacité à être l'usine du monde et donc à mobiliser des centaines de milliers, des millions de travailleurs dans des usines, des ouvriers qui produisent pour Apple, Samsung, pour les grandes multinationales de la planète. Donc cette capacité à être l'usine du monde a effectivement permis à la Chine de devenir la deuxième économie mondiale, mais ça ne suffit plus. Et l'autre levier, hein, sur lequel s'appuie le gouvernement depuis les années 2000, c'est la construction d'infrastructures, effectivement. Donc c'est un moyen pour eux de booster, on peut le dire un peu artificiellement quand même, la croissance chinoise. Dans un premier temps, le pays en avait bien besoin. Il faut savoir que avant les années 2000, il y avait par exemple que 2 lignes de métro à Pékin. Aujourd'hui, on en compte déjà 24. Il y en a encore, hein, qui sont en construction. Le métro de Pékin, il fait plus de 600 km de long. C'est le deuxième plus grand réseau de métro du monde. Donc, c'est une manière effectivement de booster la croissance, de donner du travail aux ouvriers. Mais aussi, au bout d'un moment, effectivement, on va arriver à une certaine limite. Hein. C'est vrai qu'on continue ici à construire des aéroports dans des endroits où il n'y en a pas forcément besoin. Et la politique zéro Covid s'est longtemps appuyée sur ces constructions d'infrastructures pour essayer de booster artificiellement cette croissance. Donc c'est vrai que ça donne l'image d'une Chine très dynamique, mais ce n'est pas suffisant, hein, pour booster la croissance économique chinoise.
J'ai envie de vous demander, Sébastien, finalement, avec ses ouvriers, avec ses ingénieurs, les autorités chinoises, la Chine a-t-elle besoin de la présence d'entreprises étrangères? Est-ce que finalement le pays n'a pas tout ce qu'il faut sur son territoire pour assurer sa subsistance?
Pour un grand pays comme la Chine, qui reste le plus peuplé du monde, hein, pas encore pour très longtemps, mais en tout cas l'un des pays les plus peuplés du monde, c'est difficile de rester en marge de la mondialisation. Les consommateurs chinois veulent acheter des produits étrangers et les entreprises étrangères produisent aussi pour le marché chinois, qui est l'un des plus gros marchés de consommation du monde. Il y a une classe moyenne ici de plus de 400 millions de personnes qui ne cesse de grossir et ils ne veulent pas uniquement consommer chinois. Si la Chine se referme, eh bien, elle aura encore plus de mal à se développer. Mais c'est vrai que l'objectif aussi du gouvernement chinois, dans ces périodes très difficiles de tensions économiques et politiques, notamment avec les États-Unis, hein, cette fameuse guerre commerciale, eh bien, la Chine essaye de développer sa propre économie nationale, essaye de booster la consommation domestique pour, en quelque sorte, s'affranchir des aléas internationaux et se développer. Mais elle ne va pas totalement fermer les frontières. Et d'ailleurs, Li Keqiang, hein, dimanche, lors de son discours bilan devant l'Assemblée ici à Pékin, a rappelé que le pays restait ouvert aux investissements internationaux.
Avec la guerre en Ukraine, la Chine revient au centre des jeux d'influence. Elle a pourtant été d'une confondante neutralité bienveillante à l'égard de la Russie. Elle a peut-être manqué justement une occasion de reprendre la main sur le plan international. Est-ce que c'est ça le plus gros danger pour une entreprise qui commerce avec la Chine, celui du dérapage en faveur de la Russie et donc le risque de sanctions internationales qui s'ensuit?
C'est vrai que la plupart des multinationales, des grandes entreprises ici cherchent en quelque sorte à s'affranchir, hein, du risque Chine. C'est donc délicat effectivement de miser tout sur la Chine. C'est la raison pour laquelle, hein, de grandes multinationales comme Apple ou Samsung ou Toyota ou Sony même récemment ont décidé d'ouvrir de nouvelles usines hors de Chine. Ces usines vont produire pour le marché asiatique ou le marché mondial, tandis que les usines chinoises vont produire en priorité pour le marché chinois. Il faut savoir que si une multinationale s'amusait en fait en quelque sorte à critiquer, hein, la position chinoise concernant la guerre en Ukraine ou à critiquer le gouvernement chinois, eh bien elle s'exposerait, hein, par ricochet en fait à des sanctions chinoises, hein. On l'a vu lors de l'affaire du coton produit dans le Xinjiang, hein, par les Ouïghours, et cette affaire de travail forcé qui a exposé des entreprises comme H&M ou Adidas à des sanctions chinoises, et notamment la sanction de consommateurs chinois qui ont boycotté ces entreprises. Donc le marché chinois reste très important, d'autant plus qu'il y a quand même une crise économique latente en Europe avec des grosses difficultés pour les économies occidentales. Et donc elles ont quand même besoin d'être en Chine pour vendre leurs produits, puisqu'ici la capacité quand même d'achat des consommateurs reste très importante.
Revenons donc à présent sur le début de la session annuelle du Parlement chinois dont on parlait. Hier, le Premier ministre sortant a dévoilé la feuille de route pour l'économie du pays et les objectifs de croissance pour l'année à venir. Un tableau plutôt sombre sur fond d'inflation, c'était devant près de 3000 délégués. Que peut-on retenir de ce qui s'est dit, Sébastien? L'objectif des 5% de croissance a-t-il été établi? Et peut-on s'inquiéter de l'augmentation des dépenses militaires?
Alors c'est vrai que ça fait 29 ans, hein, que les dépenses militaires augmentent régulièrement en Chine. Le budget militaire chinois est le deuxième plus important au monde, mais il est quand même très loin derrière le budget militaire américain. Donc il y a un effort de rattrapage, hein. La Chine investit dans tous les domaines militaires et notamment dans la marine. En termes de bâtiments, hein, la marine chinoise est déjà devant celle des États-Unis, mais elle a encore besoin de se moderniser. Elle n'est pas encore en capacité véritablement de s'opposer à l'armada américaine. Donc il y a un effort de rattrapage qui est important aussi, puisque l'armée, c'est quand même un point fort, hein, pour le pouvoir chinois, qui assoit la puissance du président Xi Jinping, puisqu'il est aussi chef des armées. Donc il y a aussi une volonté de montrer que la Chine est puissante. Et effectivement, il y a beaucoup de tensions internationales derrière, avec notamment la question taïwanaise. C'est un sujet extrêmement compliqué ici. Alors pour revenir à la question purement économique, hein, puisque c'est quand même l'objectif principal de cette session parlementaire, 5% c'était attendu. C'est vrai que c'est parmi les plus faibles objectifs de croissance de ces 10 dernières années, mais en même temps, pour la deuxième économie mondiale, 5%, ça représente quand même quelque chose, des créations d'emplois, une stabilisation de l'inflation autour de 3%, hein, ce qui est plutôt, plutôt bien dans le contexte international. On aimerait bien avoir 3% d'inflation en Europe en ce moment. Donc, on peut dire que l'objectif, c'était plutôt d'être rassurant, d'avoir des objectifs de croissance mesurés, mais toujours positifs, et puis d'essayer de montrer que le pays allait se relancer, notamment en s'appuyant sur les PME, sur les aides à la consommation, sur la création d'emplois, pour essayer de stabiliser la situation et puis de se développer, d'avoir un nouvel élan après ces 3 années de politique zéro Covid.
Sébastien Le Belzic, l'objectif des autorités chinoises, c'est aussi de faire revenir les investissements étrangers. Alors, allons directement à l'essentiel. De quoi auront besoin les Chinois? En quoi les entreprises belges peuvent profiter de cette reprise?
Oh bah, il y a énormément de domaines, hein. Déjà, le nombre d'expatriés belges en Chine avait considérablement baissé, hein, ces dernières années. Donc, il faut qu'ils reviennent, il faut qu'ils aient de nouveau confiance dans le marché chinois. Mais on le voit notamment pour ce qui concerne la bière, par exemple. Le marché chinois, c'est le plus important marché au monde, et donc les entreprises ont besoin d'être ici. Toutes les marques de bière belges se trouvent en Chine. Si on veut vendre du chocolat, des produits de luxe, tout ça, le marché chinois est extrêmement important. Donc les entreprises vont revenir, notamment dans les grandes places que sont Shanghai, Pékin, Shenzhen, Canton, et puis aussi des villes moyennes qui sont en très fort développement, comme Chengdu dans le Sichuan. Donc la classe moyenne chinoise, elle est là, elle a besoin de consommer, elle a envie de consommer aussi, puisqu'elle en a été privée pendant 3 années. Elle va recommencer à voyager à l'étranger, mais elle a pris aussi l'habitude de consommer à l'intérieur, de voyager à l'intérieur des frontières. Donc ça représente beaucoup d'opportunités forcément pour toutes les entreprises internationales, surtout qu'actuellement on peut dire que le gouvernement chinois, les autorités locales, notamment à Shanghai, hein, déroulent un peu le tapis rouge pour faire revenir les investisseurs étrangers.
Alors le souci aussi, c'est que nos grandes entreprises sont confrontées à un problème de taille. Beaucoup de cadres rechignent à repartir en Chine.
Oui, il y a un vrai problème d'image et c'est ça en fait la difficulté. Alors là-dessus, c'est vrai que la position du gouvernement chinois est assez ambivalente, hein. D'un côté, nous avons les gouvernements locaux, notamment à Shanghai, qui sont très pro-business, qui rencontrent très régulièrement les communautés d'affaires, hein. Les représentants des chambres de commerce, notamment celle du Benelux, m'ont dit qu'ils n'avaient jamais eu autant d'interactions avec le gouvernement local à Shanghai, qui leur explique en quelque sorte de quoi vous avez besoin, comment on peut vous aider, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais dans le même temps, quand je parlais d'ambivalence, c'est que le gouvernement chinois reste quand même un régime communiste de plus en plus dur, de plus en plus placé sous la coupe du Parti communiste. Et d'ailleurs, à l'occasion de ces sessions parlementaires, eh bien de nombreuses modifications d'organisation, d'organigramme ont été présentées qui placent à peu près toutes les structures du pays sous la coupe directe du Parti communiste. Donc ça peut effrayer un certain nombre d'investisseurs étrangers. La Chine est ce qu'elle est, hein. Il faut savoir que c'est un régime fort, qu'on s'expose effectivement à un certain nombre de contrôles, mais en même temps, c'est une économie bien organisée et c'est assez facile, si l'on respecte les règles mises en place par le régime chinois, eh bien d'y travailler. Par contre, le ticket d'entrée devient assez élevé, puisque le niveau de vie, notamment dans les grandes villes à Pékin et Shanghai, est déjà supérieur à ce qu'on connaît dans la plupart des pays européens.
Alors au final, sur quel secteur faut-il se concentrer, Sébastien? Où se nichent les opportunités pour les entreprises belges? Il y a des domaines où les Chinois sont des champions.
Oui, alors tous les domaines de haute technologie, c'est très compliqué. Par contre, dans tout ce qui concerne les ventes, la vente au détail en Chine, la consommation intérieure, le bon vin, la bonne bière, le bon chocolat, les bons produits agroalimentaires, il y a une vraie demande en Chine très importante qui s'est beaucoup développée ces dernières années. Aussi, il y a un appétit pour le luxe qui ne s'est pas démenti avec le temps. La construction aussi, avec la possibilité belge large. Donc, il y a beaucoup d'opportunités aussi dans le secteur des biotechnologies, dans le secteur de la santé. La priorité, c'est effectivement de produire en Chine pour la Chine. Comme me disait le président de la Chambre de commerce du Benelux, l'avenir de la Chine, c'est la Chine. Il n'y aura pas d'autre Chine. Il ne faut pas aller chercher au Vietnam ce qu'on a connu en Chine. C'est pas ça. Si on veut produire pour la Chine, il faut rester en Chine. Ça paraît de plus en plus évident aujourd'hui.
Merci Sébastien Lebelzig, correspondant en Chine de l'Écho, d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, à bientôt.
À bientôt. Et si vous voulez tout comprendre de la Chine, ses positions, ses points forts et en quoi nous en sommes dépendants, je vous rappelle que toute cette semaine, dans les pages de notre journal, vous retrouverez des analyses, des rencontres avec des spécialistes du pays, bref, l'essentiel pour tout savoir de la situation. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et à demain.
À la Banque Van Breda, vous méritez plus d'évolution. Plus d'évolution de votre capital. Plus d'évolution de votre capital pendant votre carrière pour pouvoir suivre l'évolution de vos petits-enfants après votre carrière. Vous méritez également plus de Banque Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.